France Culture.
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les Envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Gengis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
Ils dépassent en cruauté et en barbarie tout ce qu'on peut imaginer. Ils labourent de cicatrices les joues de leurs enfants pour empêcher la barbe de pousser. Leur corps trapu avec des membres supérieurs énormes et une tête démesurément grosse leur donne un aspect monstrueux. Ils vivent d'ailleurs comme des animaux. Ils ne font cuire ni n'assaisonnent leurs aliments. Vivent de racines sauvages et de viande mortifiée sous leur sel. Ils ignorent l'usage de la charrue, les habitations. Éternellement nomades, ils sont rompus d'enfance au froid, à la faim, à la soif. Leurs troupeaux les suivent dans leur migration, traînant des chariots où leur famille est enfermée. Ils élèvent leurs enfants jusqu'à la puberté. Leur habillement consiste en une tunique de lin et une casaque de peau de rat cousue ensemble. La tunique de couleur sombre leur pourrit sur le corps et ils ne la changent que parce qu'elle quitte. Un casque ou un bonnet rejeté en arrière et des peaux de bouc roulées autour de leurs jambes velues complètent cet équipage. Leurs chaussures taillées sans forme ni mesure ne leur permettent pas de marcher. Aussi sont-ils tout à fait impropres à combattre comme fantassins. Tandis qu'une fois en selle, on les dirait cloués sur leurs petits chevaux, laids mais infatigables et rapides comme l'éclair. C'est à cheval qu'ils passent leur vie, tantôt à califourchon, tantôt assis de côté à la manière des femmes. Ils y tiennent leurs assemblées, ils y achètent, et y vendent, et y boivent, et y mangent. Ils y dorment même inclinés sur le cou de leur monture. Dans les batailles, ils fondent sur l'ennemi en poussant des cris affreux. Trouvent-ils de la résistance ? Ils se dispersent, mais pour revenir avec la même rapidité en fonçant et renversant, tout ce qui se rencontre sur leur passage. Toutefois, ils ne savent ni escalader une place enfermée, ni assaillir un camp retranché. Mais rien n'égale l'adresse avec laquelle ils lancent à des distances prodigieuses leurs flèches armées d'eau pointues, aussi dures et meurtrières que le fer.
Bonjour, l'envahisseur que nous abordons aujourd'hui est celui dont le nom même est synonyme d'invasion barbare, de pillage et de violence. Attila, né aux alentours de l'an 400, devenu roi des Huns vers 434, mort lors de sa nuit de noces en 453. Il a dominé un empire énorme qui s'étendrait de l'actuelle frontière française jusqu'à la mer d'Aral et de la Bulgarie jusqu'aux pays baltes. C'est celui qu'on a surnommé le fléau de Dieu, celui derrière qui l'herbe ne repousse pas. Et l'extrait édifiant que nous venons d'entendre est écrit par l'historien du IVe siècle, Ammien Marcellin, tel que cité par René Grousset dans son livre « L'Empire des Steppes », qui nous a été lu par Daniel Koenigsberg. Alors, pour comprendre la légende noire d'Attila, pour distinguer le mythe de la réalité historique et géopolitique, j'ai la chance d'avoir avec moi trois des meilleurs spécialistes de l'histoire de la steppe. Yaroslav Lebedensky, bonjour.
Bonjour.
Edina Bozoki, bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, pour questionner les débuts d'Attila, sa psychologie et sa véritable personnalité, je me tourne vers l'invité à ma gauche, Kathleen Escher, bonjour.
Bonjour.
Alors, Kathleen Escher, vous êtes docteur en archéologie médiévale, enseignante à Cergy Paris Université, spécialiste du Haut Moyen-Âge. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques, notamment sur les Burgondes. Et vous avez rédigé avec Yaroslav Lebedensky le dossier Attila, un livre publié chez Actes Sud Errance en 2007. Alors,
vous êtes bien renseigné.
Je suis bien renseigné et j'ai aussi vu que vous hochiez la tête avec une certaine désapprobation face à cette description par Amiens Mercelin. Alors, est-ce que c'est une caricature, disons-le tout de suite? Est-ce que c'est de la propagande noire écrite par ses ennemis ou est-ce qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'on vient d'entendre?
En fait, c'est un très bon exemple des sources historiques. Évidemment, c'est de parti pris, et de parti pris des anomies des Huns, qui sont les seuls à nous avoir laissé les écrits. Mais si on interroge correctement ces lignes, il y a déjà toute une série d'informations qui sont finalement fondées sur des observations qui sont exactes, le nomadisme, etc. Si on cherche des vraies informations dedans, on pense qu'on peut aussi les trouver.
Alors, quelles sont les vraies informations, justement? Qui est réellement Attila? Où est-ce qu'il est né? Qui sont ses parents?
Alors, on ne sait pas exactement sa naissance et l'emplacement de son lieu de naissance. On sait à peu près à l'époque où il entre en scène en tant que grand roi unique avec son frère aîné. Et donc, comme vous avez dit, on suppose qu'il devait être né autour de 4 ans, peut-être un petit peu avant.
Un petit peu avant, 395.
Oui, mais ce sont des projections par rapport à l'âge qu'il semble avoir à sa mort. Et donc, c'est assez cohérent. Donc, on cherche un peu là où était Léa à ce moment-là. On connaît les membres masculins de sa famille. Donc, on connaît son frère, son père, ses oncles. Et puis, il y a toute une succession de grands rois auparavant. Je ne suis pas sûre qu'on connaisse vraiment toute sa filiation maternelle.
Et juste pour revenir sur le lieu de sa naissance, parce que ça a une certaine signification... À votre avis, où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'on peut supputer qu'il serait né, même s'il est un enfant de la steppe? Quel serait le « educated guess », comme diraient les Anglais?
Ce qu'on sait à partir des sources, c'est qu'en 370, les Huns apparaissent assez abruptement du côté de la mer Noire. Donc, les auteurs antiques indiquent qu'ils étaient juste derrière, auparavant. Et donc, si on se projette vers la fin du IVe siècle, ils sont déjà bien à l'intérieur de l'Europe, au-dessus des Balkans, et ils arrivent jusqu'à au milieu de l'Europe centrale. Donc, ça doit être dans cette zone-là qu'on peut situer son arrivée.
Et donc l'épicentre, si on veut, du territoire unique, ce serait quoi aujourd'hui? Ce serait déjà la Hongrie? Ce serait le nord de la Bulgarie? Ce serait l'Ukraine? Ce serait quoi?
Officiellement, quand les Huns reçoivent un morceau de l'Empire romain, c'est la Pannonie. Donc, la Pannonie, c'est une partie de la Hongrie actuelle, en tout cas. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque d'Attila, donc on va dire au fait de ce pouvoir unique, pratiquement toute l'Europe qui n'est pas Empire romain est sous domination unique, avec au centre cette partie d'Europe centrale, juste la vallée de Danube, on va dire.
Et selon vous, quelle langue parle Attila? Est-ce qu'il parle hunnique? Est-ce qu'il parle gothique?
Non, sans doute pas. Alors peut-être qu'il le parlait, mais ce qu'on voit de lui quand il est déjà souverain, donc ce qu'on sait, c'est que les Huns ont une langue dont on sait très peu de choses. Par contre,
écrite, orale,
alors c'est
transcrite dans un
oral,
alphabet.
Sans doute pas écrit, en tout cas on a zéro source en langue unique ou approchant. On se tourne beaucoup vers l'anthroponymie, c'est-à-dire les noms des gens. Et à partir de ce corpus-là, on est plus... Actuellement, on pense plus à une langue altaïque,
turco-mongole. Voilà. Altaïque, ça veut dire des rives de l'Altaï, de la région de l'Altaï.
Oui, voilà. Alors après, c'est plus des questions linguistiques qui
se
débattent.
Je vous vois pointer vers votre voisin, Jaroslav Lebedinsky. Et justement, je comptais lui poser la question d'après. D'où viennent les Huns?
Alors, nous allons faire une série de 10 émissions sur la question, sans épuiser le sujet.
Posons les grandes hypothèses. Un peuple turc, comme pourrait l'indiquer le nom Attila, c'est qui viendrait de Papa, Atta.
Certainement un regroupement composite de tribus agrégées au cours d'une migration qui a conduit les Huns peut-être de l'Altaï, et en tout cas de Sibérie méridionale ou d'Asie centrale, vers l'Europe de l'Est, puis l'Europe centrale. Alors, votre question de tout à l'heure sur le lieu de naissance d'Attila est très intéressante, parce que s'il est né autour de 400, il est né au moment où le centre
de gravité
de l'Empire unique se déplaçait justement des steppes de la mer Noire vers le bassin des Carpates actuels.
Et est-ce que, par exemple, les fameuses Xiongnu dont parlent les Chinois, la chronique chinoise, pourraient être les cousins des Huns, ou est-ce que c'est extrapolé de croire qu'il y ait un seul grand peuple comme ça, turco-nomade?
Alors c'est une vieille théorie, ça remonte à Joseph de Guignes, et donc à la fin du XVIIIe siècle, et la réponse courte, c'est peut-être. Il est probable que le nom des Xiongnu, dans sa version originale, puisque Xiongnu c'est une adaptation chinoise, devait être quelque chose comme Hun, et il est probable que c'est le nom des Huns. Après, que les Huns aient hérité de ce nom, ou l'aient repris, c'est un autre débat.
Et du coup, que veut dire le nom de Attila lui-même? Est-ce que c'est comme ça qu'il était appelé en unique? Enfin, je me tourne vers vous, Cataline. Est-ce qu'on y retrouve cette racine turque comme Atta, le père, ou est-ce que c'est une extrapolation linguistique?
Alors, sans doute, il avait une signification et c'est fait partie des noms sur lesquels on s'appuie, mais cette légende qui veut que ça vienne du gothique et que ça veut dire quelque chose comme petit père, c'est sans doute une interprétation d'ego, en fait.
D'accord.
Et de ceux qui, par la suite, ont hérité de cette tradition.
Et je me tourne vers vous, Edina Bozoki. Qu'est-ce qu'on sait de l'apparence physique d'Attila? On a entendu une brève description, peut-être un peu caricaturale, dans cet extrait, mais quelle est la réalité de...
Oui, mais alors, on a une très grande chance, parce que Priscos, qui venait de l'Empire, qui n'était pas encore l'Empire byzantin, mais l'Empire de l'Orient, qui faisait partie d'une ambassade pour rencontrer Attila, a décrit cette rencontre. Et malheureusement, toutes les parties de l'œuvre de Priscos, c'était en 449, toutes les parties ne sont pas gardées. Malheureusement, c'est ensuite Jordanès, au siècle suivant, qui a écrit aussi une chronique, d'ailleurs sur les Goths, plutôt, mais c'est lui qui a conservé les parties les plus importantes de Priscos. Et donc Priscos a rencontré Attila et elle l'a décrit comme quelqu'un de très digne, calme, et qui, pendant que les autres buvaient et s'amusaient, lui, il gardait vraiment tout son sérieux. Donc il avait sans doute une sorte de prestance impressionnante. Et aussi, il décrit aussi son palais, qui était un palais en bois, et toute la cérémonie à la cour d'Attila pour recevoir l'ambassade. Donc il fallait boire, il fallait se comporter selon tout à fait un rituel, comme dans une autre cour.
Et donc physiquement, il le décrit comment? Est-ce qu'il le décrit comme ayant des traits mongoloïdes, ressemblant à...
Non, ça, il dit pas ça, mais sans doute c'était quelqu'un avec des yeux foncés et... qu'il n'était pas immense non plus, mais surtout il avait une sorte de dignité que Priscos souligne. Donc c'est la seule source où quelqu'un décrit un personnage vraiment face à face.
Et d'où vient, à votre avis, cette histoire, légende ou réalité d'ailleurs, de la barbe qui ne pousse pas? Est-ce que c'est un trait asiatique, ou est-ce que ce serait lié à une forme de ritualisation, de scarification? Qu'est-ce que vous en pensez, Cataline?
On va dire, d'après dernier état de la question, les scarifications, ce sont très certainement des signes de deuil. Et ça, il y a la description, entre autres, des funérailles d'Attila, où on écrit que les guerriers se labourent le visage afin que ce personnage soit pleuré par des larmes de sang et pas de larmes de femme. Voilà.
Des larmes de sang. Donc ils se lacéraient le visage avec leurs ongles.
Ou des armes blanches, je pense.
Ou des ustensiles, oui, des couteaux.
Voilà. Et ça, ça correspond bien aussi à d'autres traditions qu'on connaît. Maintenant, oui, qu'ils avaient La barbe rare, ça peut être lié un peu à leur pilosité normale, en fait.
Et donc, ils se scarifiaient, et c'est ça qui empêcherait la barbe de pousser, c'est ça?
Ça, c'est l'interprétation d'Amien Marsalin, qui est un exemple de ce que les Romains ont compris de tout ça.
Et toujours sur l'aspect physique et la dimension rituelle de l'aspect physique, on parle de front à tête plate, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est avéré et répandu, est-ce que...
Effectivement, dans la description, on lui donne une sorte de tête assez grande, allongée. Et par ailleurs, à partir des sources archéologiques, donc des fouilles, des squelettes qui ont été trouvés, c'est bien attesté à l'époque dans l'Empire runique, ce qu'on appelle dans la littérature la déformation crânienne. Donc, je préfère le modelage, sachant que c'est très certainement une action qui est réalisée pour le bien de l'individu.
Peut-être rappeler, donc c'est quoi? C'est des planches en bois ou des bandeaux qui sont appliqués au nourrisson, en fait, hein, c'est ça, à la naissance,
quand le crâne est très mou. Pendant quelques années, en fait, pour que ça soit efficace. Oui, les bandelettes, c'est un peu les plus courantes. Les planchettes, peut-être de temps en temps. Ce qu'on remarque, ce sont des traditions qu'on relève de temps en temps, un peu partout sur la Terre, en Égypte, en Amérique du Sud. Mais il n'empêche que c'est très bien attesté dans les tombeaux, alors en nombre restreint. Et alors, l'interprétation, ça a fait couler aussi beaucoup d'encre. Je trouve que l'idée que c'est quelque chose qui distingue une naissance plutôt élevée, noble, etc., c'est plutôt logique. En tout cas, c'est fait pour distinguer la personne, de lui donner un trait qu'on ne peut pas lui enlever de son vivant, en gros, que les gens le faisaient à leur propre enfant. Donc, il y avait forcément, c'était un but recherché.
Et alors justement, en parlant de la naissance d'Attila et de sa position sociale, est-ce que, dans le fond, Attila était fait pour régner, ou est-ce que ça fait partie de sa psychologie? C'est un trait intéressant de son caractère de rappeler qu'il est le fils d'un frère cadet. Son père n'est pas le roi. Munzuk n'est pas le roi des Huns.
Alors, chez les Huns, comme chez d'autres peuples de cette époque, le système de gouvernement est fait par deux frères. Donc, c'est le système qui veut que le frère aîné et le suivant, sans doute, deviennent rois ensemble. Et alors, idéalement, c'est les enfants du plus âgé qui lui succèdent, mais apparemment, il n'y en avait pas. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas au mieux placé dans l'ordre de succession, mais ce n'était pas non plus très surprenant. Et sans doute, dès qu'il était jeune, c'était une possibilité qui s'est profilée. Et que, même si on imagine son éducation, dont on n'a également pas du tout d'informations, ça devait être une éducation de son peuple qui visait à lui redonner suite de sa noble naissance et éventuellement de son règne. C'était pas du tout quelque chose d'inimaginable.
Et cette diarchie, donc ce système de double pouvoir, de double royauté, j'imagine, ça vous paraît circonstanciel ou ça serait vraiment un système de gouvernement qui serait propre aux Huns?
C'est attesté plusieurs fois, donc chez les Huns, chez les Burgondes. Donc c'est un système qui veut que les frères, quand il y en a plusieurs, règnent ensemble. Et chez les Huns, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment deux, même s'il y en a plus. Parce que, par exemple, Priscus décrit dans le repas où il a assisté que l'oncle d'Attila a la place d'honneur à côté de lui. Et donc cet oncle, donc on connaît l'existence et qu'apparemment il a vécu du coup à l'époque du règne de ses neveux, n'a pas régné pendant que ses frères ont régné. Donc c'est un système qui est très certainement en usage chez les Huns, jusqu'à ce qu'Attila assassine son frère afin qu'il soit seul à régner. Et ça, par contre, c'était moins traditionnel, sans doute.
Alors justement, donc, c'est ça le moment disruptif dans la vie je me tourne vers vous et Dina Bozoki. Donc Attila arrive au pouvoir avec son frère, son grand frère, Bleda. Pourquoi, selon vous, ce putsch, cet assassinat, qu'est-ce qui se passe pour rompre la tradition de la diarchie unique?
Là, je ne peux pas vraiment donner une explication, parce que ce n'est même pas tout à fait sûr que... d'abord, ce n'est pas peut-être lui-même qui a fait tuer, et peut-être c'est lui qui a fait tuer, mais donc je demande aux autres spécialistes ce qu'ils en pensent, quelle était la raison. Bon.
On est obligé de formuler des hypothèses, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Yaroslav?
Non, mais Madame Bozoki a absolument raison. Nous ne savons pas vraiment si Attila a fait assassiner Bleda et pourquoi. Ce que nous savons, et là on bute sur une caractéristique très intéressante de son règne, c'est qu'ensuite il est le seul roi et qu'apparemment il a prévu aussi que l'un de ses fils lui succède. Et pas deux. Il y a cette idée de seul roi des Huns qui est répétée plusieurs fois dans les sources, y compris dans son chant funèbre, et qui probablement pour lui-même avait une très grande importance, et qui explique aussi toute une partie des événements de son règne.
Alors justement, ça nous amène à notre deuxième extrait que nous allons écouter maintenant.
Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Il est opportun d'aller conquérir Rome et d'aller vers l'ouest. Après, je vous promets le monde entier.
En faisant couler le sang de nos guerriers.
Non, frère. Ne penses-tu pas avoir remporté assez de glorieuses victoires? Il est temps de profiter de la paix qui nous est offerte. Notre peuple vit heureux. Nos alliés nous paient un fort tribut. La paix actuellement nous convient.
Je pense qu'on a fait une bonne affaire avec les Romains.
Tous les deux, nous sommes encore jeunes et forts, Attila. Qui peut nous empêcher de gouverner pendant longtemps dans la paix et la prospérité?
Nos pères nous ont donné la force. À nous de nous en servir.
Mais il y a le traité.
Les traités sont faits pour laisser à l'ennemi le temps de préparer la guerre.
Mais les Romains ne trahiront jamais un pacte.
C'est ce qui te trompe, Bleda. Tu ne connais pas l'empereur. Cet homme est dangereux. Que connais-tu, toi, de ces Romains? Te fies-tu donc tellement à eux? S'ils le pouvaient, ils nous rejetteraient sur les rives marécageuses du Danube. Est-ce cela que tu veux pour notre peuple?
Tu confonds le sens de mes paroles. J'ai toujours pensé qu'il était inutile de répandre le sang des Huns.
Je dis vivre, et laissez vivre.
Et je dis tu, ou bien sois tué. Il n'y a pas à choisir.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Nous venons d'écouter un extrait du film Attila de Pietro Franceschi, sorti en 1954, qui nous décrit donc le moment pivot de la vie d'Attila lorsqu'il tourne son regard non plus vers l'Est, mais vers l'Ouest, pour attaquer l'Empire romain d'Occident après avoir au passage zigouillé son frère Bleda. Pour parler de l'action militaire d'Attila, je me tourne donc à présent vers Yaroslav Lebedensky. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des anciennes cultures guerrières de la steppe et du Caucase. Vous enseignez l'histoire de l'Ukraine à l'INALCO. Vous avez rédigé avec Katalin Escher le dossier Attila, dont nous avons parlé, publié en 2007. Et également signé un ouvrage sur la campagne d'Attila en Gaule en 2013, ainsi qu'un autre ouvrage plus général sous le titre « Un d'Europe, un d'Asie » en 2018. Et votre dernier livre s'intitule « Les Amazones, mythes et réalités des femmes armées chez les anciens nomades de la steppe », publié aux éditions Errance en 2025. Pour revenir à Attila, est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà du personnage, les Huns sont réellement, comme on apprenait dans les cours d'histoire quand on était plus jeune, le facteur déclenchant de cette tectonique des plaques, disons, que sont les grandes invasions? Est-ce que ce passage du Rhin gelé le 31 décembre de l'an 406, c'est vraiment la faute des Huns?
Vous savez que c'est la journée que j'aurais aimé vivre. J'étais sur les bords du Rhin le 31 décembre 2006, commémorer l'événement. Bon, plus sérieusement, oui, les mouvements des Huns ont déclenché ce qu'il est convenu d'appeler les grandes invasions germaniques en Occident, notamment à travers les mouvements des Goths. Cela dit, on peut remonter aussi quelques crans de plus et essayer de comprendre pourquoi les Huns ont migré vers l'Ouest et déclenché ces invasions. Et ça, nous ne le savons pas.
Est-ce que c'est pas un mouvement général qu'on voit à travers l'histoire, où les nomades migrent comme ça, ils continueront d'ailleurs avec Genghis Khan, que sais-je, c'est-à-dire à migrer vers l'Ouest,
bien sûr,
naturellement, en direction du soleil couchant.
Il y a un mouvement d'Est en Ouest qui s'engage dès le début de l'âge du fer, en fait, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ avec les Scythes, et qui s'est poursuivi jusqu'au Mongol. Mais on ne peut pas toujours discerner la cause exacte de tel mouvement, puisque les gens qui nous apparaissent comme des envahisseurs sont souvent les fuyards de la bataille précédente.
Donc c'est le cas justement en 1906.
Tout à fait. Quand les Huns arrivent en fait dans les steppes européennes, comme on l'a rappelé, dans les années 370, peut-être fuient-ils plus fort qu'eux, des voisins situés à l'est, mais nous n'en avons pas le détail.
Et ils poussent donc vers l'ouest les grands peuples qu'on identifie comme les peuples des grandes invasions, c'est-à-dire...
Ils ont poussé des Alains, des Vandales, des Goths, les Burgondes également dans une certaine mesure, puisqu'ils les ont vaincus. Oui, ils ont joué un rôle très direct dans ces événements. Et eux-mêmes y ont participé à travers les deux grandes campagnes d'Attila, en Gaule et en Italie.
Alors, on va y revenir, mais rappelons peut-être quand même qu'au début, quand même, leur regard se tourne plutôt vers l'Est. Attila, en tant que roi, cherche d'abord à conquérir la Perse.
Alors, il y a une rumeur rapportée par les ambassades de 449, ambassades romaines orientales et occidentales, sur le projet d'Attila de soumettre la Perse. Bon, probablement plus modestement de faire payer un tribut à la Perse. De toute façon, la Perse sassanide était un beaucoup trop gros morceau pour les Huns à l'époque, donc on ne peut pas envisager de conquête. Est-ce que ce projet existait réellement ? Est-ce que c'est de la désinformation visant à faire oublier de véritables projets tournés plutôt vers les empires romains, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les rois huns successifs jusqu'à Attila, et les choses ont changé avec Attila, ont eu une politique extrêmement habile de bascule entre les deux moitiés de l'empire romain, qui sont séparés à partir du règne de Théodose. Donc plutôt des arrangements avec l'empire d'Occident, y compris la fourniture de mercenaires, et plutôt une pression exercée sur la moitié orientale avec un tribut de plus en plus lourd qui est exigé. Et lorsque le tribut ne vient pas ou est insuffisant, une opération militaire vient montrer la réalité de cette menace.
Et d'ailleurs, Bléda, le grand frère, tant qu'il est encore roi, attaque l'Empire d'Orient.
Oui, Bléda et Attila ont participé ensemble à l'une de ces campagnes.
Et pour revenir... Je vois que Edina Bozoki veut rajouter quelque chose.
Je voulais juste dire que Attila n'avait sans doute pas l'intention de conquérir quoi que ce soit, vraiment. Mais il voulait avoir beaucoup de tribus, c'est-à-dire toutes sortes de richesses. Et il harcelait avec ses expéditions. D'abord, effectivement, déjà avant lui aussi, ils harcelaient l'Empire romain d'Orient. Ensuite, quand il commençait sa grande campagne, les deux grandes campagnes vers l'Empire d'Occident, c'était pas non plus une conquête, c'était
une sans radia.
Doute en grande partie pour peut-être vaincre aussi des concurrents, les gothiques, des tribus ou des peuple gothique, et aussi avoir des richesses. Voilà.
Yaroslav Lebedinsky, on dit, peut-être que Attila, finalement, ne cherchait pas tant que ça à conquérir. Pourtant, il y a ce mythe de l'épée sacrée, de la désignation divine d'Attila. Est-ce que vous pensez que lui-même a essayé de créer sa propre légende, de créer une idéologie du conquérant désigné par les dieux d'ailleurs, quels dieux ? Les dieux du chamanisme, Tengri ?
Mais quelques décennies avant Attila, un chef hun complètement oublié qui s'appelait Uldin prétendait déjà conquérir tout ce qui était éclairé par le soleil et la lune. C'est évidemment de la propagande. Oui, ça faisait beaucoup. Attila n'apparaît pas dans l'histoire comme un grand conquérant, à part une bande de territoire au sud du Danube. Il n'a en fait jamais rien conquis sur Rome. Madame Bozoki a raison, c'est un système de raquettes. C'est un système de raquettes qui alimente en fait le mode de vie d'une élite unique qui dirige elle-même un empire barbare complètement composite.
Multiethnique d'ailleurs, il faut le rappeler, en fait, c'est un suzerain finalement.
Oui.
Attila, il a quoi ? Il a des Alains.
Alors, il a deux groupes de gens de tradition nomade et de langue iranienne, les Sarmates de Hongrie et les Alains du nord du Caucase, et une foule de peuples germaniques, dont on a des listes qui varient beaucoup d'ailleurs, mais qui comprennent notamment les Ostrogoths, enfin le groupe de Goths de l'Est qui n'est pas parti en 376, des Ruges, des Skirs, des Suèves, toutes sortes de peuples, grands et petits.
Alors, les Skirs sont largement oubliés aujourd'hui, mais c'est quand même pas insignifiant, puisque c'est le roi des Skirs, Odoacre, qui sera ensuite considéré comme l'homme qui a fait chuter Rome, enfin le Rome d'Occident en tout cas. Mais oui, donc vous parlez d'un système de raquettes, c'est ce que Michel Rouche appelait le royaume prédateur, c'est ça, enfin un chef en fait, un chef de clan qui doit constamment s'enrichir pour quoi, par appât du gain ou parce qu'il a besoin en fait d'acheter des fidélités en permanence.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un système parasite, doublement parasite. Nous avons les uns qui gouvernent cet empire barbare et qui donc doivent satisfaire dans une certaine mesure, notamment par du butin militaire ou par des tribus, les chefs Goths, Suèves, etc. Et puis, nous avons le racket à grande échelle pratiqué contre l'empire d'Orient, puis dans une espèce de retournement auquel Attila procède en 451 contre l'Empire d'Occident. Ce qui conduit d'ailleurs, en fait, à son échec. Ces deux grandes opérations en Occident ont été des échecs.
Alors, peut-être rappelons un peu les circonstances. Donc, pourquoi est-ce que, selon vous, printemps 451, fin 450, début 451, pourquoi est-ce qu'Attila renonce à ce pillage systématique de l'Empire d'Orient, qui se passait quand même plutôt bien? Il faut se rappeler qu'un grand tremblement de terre avait beaucoup affaibli, enfin, bien du point de vue des Huns, avait beaucoup affaibli l'Empire d'Orient. Les troupes uniques pouvaient traverser, enfin, piller la Thrace, piller plein de différentes villes, même s'ils n'ont pas pris Constantinople. Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas sur sa lancée? Pourquoi est-ce qu'il se lance dans un territoire a priori plus pauvre, plus marginal à l'époque, qui est la Gaule?
Parce que l'empereur d'Orient, Théodose II, homme faible, est mort. Il a été remplacé par un militaire qui s'appelle Marcien, derrière lequel se tient le vrai pouvoir, qui est le généralissime Alain Aspar. Et la cour de Constantinople fait savoir à Attila que maintenant c'est terminé. Ils payeront, mais ils payeront raisonnablement, et sinon c'est la guerre. Et donc Attila se retourne vers l'Occident, et il a des raisons de le faire. Il intervient dans une guerre de succession entre princes francs. Une sœur de l'empereur d'Occident... Non. Lui a proposé le mariage.
C'est quand même incroyable cet épisode. Rappelons peut-être l'épisode de Honoria.
Mais c'est vrai. La princesse Honoria, qui a le titre d'Augusta, enfin qui est une membre à part entière de la famille impériale, écrit à Attila en lui proposant le mariage. Pourquoi, comment, nous n'en savons rien, mais l'épisode...
Pour embêter son frère, quoi, enfin, pour...
Très probablement, pour revendiquer sa part d'héritage, etc. Attila semble avoir pris ça... très au sérieux, et là on n'est pas dans le mélodrame hollywoodien, on est dans la géopolitique, puisqu'Attila a la possibilité de devenir un beau-frère de l'empereur d'Occident, voire éventuellement de lui succéder, puisque Valentinien n'a pas d'enfant mâle. Et donc l'un des buts officiels de la campagne d'Attila en Gaule, tel que nous le rapporte Jordanès, c'est cela. Et puis il y a la possibilité de vassaliser les Visigoths installés en Aquitaine, qui sont dans son esprit des sujets uniques, puisque ce sont des gens qui ont fui l'Empire unique, et que dans la mentalité du nomade qui veut sans cesse rassembler ses troupeaux, ces gens doivent dépendre de lui.
Ça l'agace beaucoup, finalement, qu'il y ait un royaume Goth, donc Visigoth en l'occurrence, qui puisse se créer comme ça, à Toulouse, directement affilié à l'Empire romain, quoi. Alors sans passer par lui, c'est ça?
C'est une hypothèse purement personnelle, mais oui, j'imagine bien Attila rêvant donc de ce mariage prestigieux dans la famille impériale romaine. Il n'aurait pas été le premier chef barbare à se marier de la sorte, et réclamant les revenus de la Gaule comme dot, puisqu'il réclamait la moitié, en fait, de l'Empire d'Occident.
Et d'ailleurs, pour illustrer cette thèse, il y a quand même, pour revenir un tout petit peu en arrière, cet épisode intéressant, c'est que quand il accède au pouvoir, si je comprends bien, il réclame que l'Empire romain lui restitue ses mercenaires. C'est-à-dire que les Huns avaient un problème de soldats qui migraient massivement pour travailler pour les Romains. Et ça l'agaçait, si j'ai bien compris.
Oui, alors il a réclamé ça pendant tout son règne. On voit qu'à chaque ambassade, à chaque traité, il réclame les transfuges. Alors il y avait des transfuges de sang royal, dont deux qu'il a fait exécuter quand il les a récupérés. Ça, c'était un danger, bien entendu, politique pour lui. Oui. Et il y avait sans doute ce départ pour l'Empire romain de groupes de mercenaires uniques. Il ne faut pas imaginer, malgré son prestige, malgré son statut de seul roi des Huns, qu'il ait eu un pouvoir absolument total.
Et alors, pour parler quand même de sa force, de son pouvoir, est-ce qu'on peut estimer la taille de cette armée, j'allais dire quand même de légende, hein, qui attaque la Gaule en 451 est-ce qu'on peut se risquer à avancer un nombre? Et qu'est-ce qui fait sa force? Est-ce que c'est la cavalerie? Est-ce que c'est l'étrier, pas l'étrier? L'arc, pas l'arc? Pourquoi est-ce qu'ils écrasent tout sur leur passage, c'est un...
Vaste question, là aussi. Alors, en dépliant tous mes dons...
C'est pour ça qu'on a invité des spécialistes.
Tous mes dons de synthèse. Alors, en termes d'effectifs, on sait que Jordanès, au moment de la campagne de Gaulle, lui prête 500 000 soldats, ce qui est ridicule. On peut imaginer l'effectif maximal de l'armée d'Attila à 100-150 000 guerriers, en mobilisant à peu près tout ce qui était disponible. Le seul chiffre fiable, ce sont les 60 000 cavaliers uniques qui auraient été fournis à Aetius, général romain, en 425, par le prédécesseur d'Attila. Et on a des estimations chez d'autres peuples de nomades d'Asie centrale, de Sibérie, qui tournent là aussi autour de quelques dizaines de milliers de guerriers. Donc si la campagne des Gaules a vraiment mobilisé une grande armée, non seulement unique, mais également ostrogothique, en partie franque, en partie burgonde, les Alains, etc., elle pouvait compter quelque chose comme 30 ou 50 000 hommes. Au-delà, les problèmes logistiques auraient été totalement insurmontables. Oui. Il faut aussi nourrir cette armée, même sur le pays, même en pillant. Alors, en ce qui concerne sa force ou ses forces, il faut bien comprendre que cette armée d'Attila n'est plus du tout l'armée unique qui avait conquis les steppes européennes dans les années 370. Elle comprend des Huns, elle comprend aussi d'autres contingents barbares très nombreux, qui ont chacun leur spécialité. Et on a même un texte de Jordanès qui explique que le Sarmate combat de telle façon, l'Alain de telle manière, le Ruge, le Skyr et le Hun. Donc on a un noyau unique qui est évidemment la partie la plus prestigieuse de l'armée, celle qu'Attila commande en personne, comme on le voit.
La lance, la cavalerie.
451, qui est une cavalerie d'archers montés. Donc des gens qui combattent à une certaine distance avec leur arc, qui est une arme surpuissante pour l'époque. Et puis, on a de nombreux contingents germaniques qui sont principalement des contingents d'infanterie. Et on a aussi tout un train de bagages et des machines de guerre. Des machines de guerre qu'Attila utilise à plusieurs reprises pendant son règne. Attila, de manière très bizarre pour un nomade, assiège des villes. Et il perd même beaucoup de temps pendant sa campagne de Gaule.
Alors on va revenir sur les villes, mais peut-être avant, que signifie cette expression qui restait dans l'histoire de fléau de Dieu, c'est-à-dire de fouet envoyé par Dieu pour châtier les hommes? D'où vient cette expression? Est-ce qu'elle a vraiment été appliquée contre lui, de son vivant, face à lui, ou est-ce que c'est une création ultérieure? Edina Bozoki.
Oui, en fait, à son époque, cette expression ne paraît pas, et en fait, cette expression fléau de Dieu apparaît d'abord chez Isidore de Séville, donc dans son Histoire des rois des Goths, Vandales et Suèves, au 7e siècle.
Deux siècles plus tard.
C'est pas du tout l'expression exacte comme ça, c'est la verge de la fureur du Seigneur, donc un instrument de châtiment.
Alors c'est quoi la théorie de cette verge de la fureur du Seigneur ou du fouet du Seigneur?
Mais on imaginait
Dieu a envoyé Attila pour punir les Européens de leurs péchés?
Non, en général, tout ce qui était catastrophe ou guerre, c'était imaginé à l'Antiquité, mais au Moyen-Âge aussi, comme un châtiment de Dieu, qui, donc envoyé à cause des péchés du peuple par Dieu. Et en fait, je voulais retomber encore là-dessus, que c'est beaucoup plus tard que cette expression « fléau de Dieu » va être vraiment popularisée, c'est en Italie, et beaucoup, beaucoup dans l'historiographie, mais aussi dans les légendes, dans les littératures, mais vraiment beaucoup plus tard au Moyen-Âge.
Alors, pour revenir quand même à la légende, je ne sais pas, en tout cas la dimension divine ou d'antéchrist du personnage, il y a quand même une ville qui va résister à l'arrivée d'Attila grâce à une jeune fille née aux alentours de Nanterre, si je comprends bien, qui a convaincu les habitants au printemps 451 de ne pas ouvrir les portes, de résister. Et elle s'appelle Geneviève, c'est devenue Sainte Geneviève. Elle a donné son nom à la colline où se trouve le Panthéon aujourd'hui, sur la rive gauche, et la Sorbonne d'ailleurs. Donc je me tourne vers vous, Catherine Escher. Qu'est-ce que vous pensez de ce lien entre Attila et l'émergence de plusieurs saints catholiques? Est-ce qu'il y a une espèce de co-construction qui s'opère en ce début du Moyen-Âge?
Alors, il y a très certainement des fondements historiques. Sainte Geneviève, c'est un personnage absolument historique qui a fait bien des choses. Maintenant, a-t-il vu Attila en face? Ça, c'est pas dire, en fait. Mais c'est vraiment attesté par les sources que plusieurs personnages de l'époque, qui sont essentiellement des évêques ou le pape, qui ont participer à de la diplomatie, on m'appelait ça. Ils avaient un rôle d'intercesseur pour sauver les habitants, les populations. Ils arrivaient à répondre à cette espèce d'attente d'Attila qui a l'air bien attestée, qu'on lui témoigne du respect, qu'on le reçoit bien, qu'il, c'est pas juste un militaire, c'est pas juste un général, c'est quand même déjà le roi d'Inde. Et il se met vraiment au niveau de l'empereur. Il considère qu'on lui doit autant de respect. Et tous les personnages qui arrivent à peu près à gérer ça réalisent vraiment des progrès, en fait, dans les négociations avec lui.
Parce qu'il y a Sainte-Geneviève à Paris, mais il y a aussi Saint-Loup à Troyes. Enfin, c'est un cas qui se reproduit.
C'est plus probable, comme le pape aussi qui lui fait rebousser chemin, entre autres choses. En tout cas, oui, c'est plus une partie historique où on voit très bien des personnages interagir avec Attila à ce moment-là.
Vous disiez, Yaroslav Lebedinsky, cette incursion en Gaule, finalement, c'est pas un tel succès que ça, quoi. Il attaque Orléans, il y passe beaucoup de temps, et puis il se replie vers l'Est, on comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi, vous allez nous le dire, jusqu'à la grande bataille des champs cataloniques, qui n'est pas une victoire.
Alors, Attila part de Metz, avance vers Orléans, met le siège devant la ville. Là, nous avons deux récits contradictoires du siège d'Orléans et de la façon dont il est levé. Il est probable qu'Attila a réussi à entrer dans Orléans et en a été chassé par l'arrivée de l'armée de secours romaine et visigothe, qui pendant ce temps-là s'était constituée. En fait, il a perdu un temps fatal devant Orléans. Donc, surpris devant ou dans Orléans, il se replie, et poursuivi par l'armée romaine, il s'arrête au fameux champ catalonique, Mauriacus, donc aux environs de l'actuel Troyes, où il livre bataille en rase campagne, et où il est en fait battu. On le laisse partir, son armée n'est pas détruite, mais il a quand même envisagé de se suicider et de s'incinérer sur le fameux bûcher de sel qu'il avait fait dresser. Non, globalement, c'est un échec. Et surtout, la situation gauloise, après son départ, bascule en faveur des Visigoths, qui sont désormais la puissance dominante dans toute la Gaule.
Alors, on va devoir avancer dans la vie d'Attila, mais j'ai quand même une dernière question. Je prends souvent l'autoroute qui va vers Bordeaux, et je remarque qu'au bord de la route, il y a une ville qui s'appelle Alainville, il y a des toponymes. Est-ce que certaines des troupes d'Attila sont restées en Gaule et sont encore aujourd'hui présentes en France?
Et non, ce ne sont pas les troupes d'Attila. Alors, n'en déplaise à Jean Raspail, qui avait écrit un chapitre délicieux de la Hache des Steppes là-dessus, à la poursuite des survivants des Huns. Non, Alainville, les toponymes de ce genre, ce sont ceux laissés par les Alains au service des Romains.
Donc ce sont quand même des Alains.
Ce sont des Alains installés au nord de la Loire, un petit royaume qui avait Orléans comme capitale et qui a probablement participé à la défense de la ville.
Alors ça nous amène donc au repli d'Attila qui ne réussit pas au champ catalonique et qui évidemment doit conquérir pour régner. C'est une fuite en avant finalement, comme beaucoup de ces rois nomades. Et du coup la cible d'après c'est l'Italie, mais nous allons écouter le troisième extrait.
Tu pourrais être lâche et cruel jusque-là.
Encore plus s'il le faut. Mais toujours Attila. Toujours l'heureux objet de la haine publique. Fidèle au grand dépôt du pouvoir tyrannique. Toujours.
Achève. Et dis que tu veux en tout lieu être l'effroi du monde et le fléau de Dieu. Étale insolemment l'épouvantable image de ces fleuves de sang où se baignait ta rage. Fais voir.
Que vous perdez de mots injurieux à me faire un reproche est doux et glorieux. Ce Dieu dont vous parlez de temps en temps sévère ne s'arme pas toujours de toute sa colère. Et quant à sa fureur, il livre l'univers, elle a pour chaque temps des déluges divers. Jadis, de toutes parts faisant regorger l'onde, sous un déluge d'eau, il enfonça le monde. Sa main tient en réserve un déluge de feu pour le dernier moment de nos derniers neveux. Et mon bras, dont il fait aujourd'hui son tonnerre, d'un déluge de sang, couvre pour lui la terre.
Lorsque par les tyrans il punit les mortels, il réserve sa foudre à ses grands criminels, qu'il donne pour supplice à toute la nature, jusqu'à ce que leur rage ait comblé la mesure.
France Culture,
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Nous venons d'écouter un extrait de Attila, tragédie en 5 actes de Corneille, qui date de 1637. Décidément, notre envahisseur n'a pas bonne presse. Et pour parler de la postérité d'Attila, ainsi que de son rayonnement culturel, je me tourne à présent vers Edina Bozocchi. Vous êtes maître de conférences émérite à l'université de Poitiers, spécialiste de l'histoire de la religion et des légendes médiévales. Votre domaine de recherche actuel concerne le culte des saints et des reliques. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le Moyen-Âge, dont le dernier en date, « L'imaginaire de la sainteté, de la découverte des reliques à la fabrique des légendes », paru aux éditions du Cerf en 2021. Vous avez aussi publié un passionnant ouvrage intitulé « Attila et les Huns, vérité et légende », publié aux éditions Perrin en 2012. Peut-être, première question, pourquoi est-ce qu'il a si mauvaise réputation, Attila ? Pourquoi est-ce que c'est celui dont on dit que, sur son passage, l'herbe ne repousse jamais ? Finalement, c'est un envahisseur parmi d'autres.
Oui, mais il y a toujours des personnages qui cristallisent sur leur individu toutes sortes de légendes, toutes sortes d'événements historiques un peu exagérés aussi. Il y a d'autres cas comme Alexandre le Grand ou le roi Arthur et Attila. Sincèrement, je pourrais pas dire pourquoi c'est lui, mais ensuite je connais effectivement l'évolution de ces légendes. D'abord effectivement dans les légendes des saints. Alors je voulais juste citer la légende de Saint Mémin. C'est une légende hagiographique de l'époque mérovingienne où la mauvaise réputation d'Attila est élaborée parce qu'il y a une délégation envoyée par Saint-Loup, évêque de Troyes, à Attila. Et là, finalement, cette ambassade où il y a même des jeunes enfants, etc., se termine très mal parce qu'Attila va tuer Saint-Mémin qui devient un martyr. Mais en fait, c'est peu basé probablement à la réalité. Il y a aussi d'autres martyrs qui sont attribués à Attila, par exemple Saint Nicaise de Reims et sa sœur, mais probablement c'était des martyrs plutôt des Vandales, et beaucoup plus tôt que l'époque d'Attila, donc au début du 5e siècle.
Donc on lui en prête plus qu'il n'en a vraiment fait ?
Oui, après, bon, on reste un tout petit peu avec les saints. La légende la plus connue et la plus exagérée, qui n'a vraiment pas de base historique, c'est la légende des 11 000 vierges qui ont fait un pèlerinage à partir d'Angleterre à Rome et au retour se sont arrêtées à Cologne et c'est là où les uns les auraient massacrés. Alors c'est une légende absolument pas réaliste qui apparaît au Xe siècle et le nombre des vierges, bien entendu, c'est aussi très exagéré, mais c'est une légende qui a eu ensuite beaucoup d'écho dans la littérature mais aussi dans les arts, etc.
Oui. Si on peut résumer, l'endroit où il est le plus détesté, finalement, c'est pas tellement la Gaule. Là où il a laissé le pire souvenir, c'est l'Italie.
Oui, c'est l'Italie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette campagne d'Italie pourquoi est-ce qu'il a laissé un si mauvais souvenir, finalement, en Italie ?
Là, on ne sait pas non plus tous les détails, pourquoi il a laissé exactement là autant de mauvais souvenirs, mais effectivement, il a entrepris une campagne un an après l'expédition en Gaule, et qui a commencé, ou en tout cas, l'événement le plus célèbre, c'est le siège de la ville de Aquileia, ou Aquilée, à la française, qui a duré aussi assez longtemps, et finalement, il a pu conquérir la ville, et même, on attribue en grande partie à Attila et aux Huns la destruction de cette ville. Ensuite, il a continué sur la vallée du Pô, et effectivement, il y avait aussi une rencontre avec le pape.
Le pape qui le dissuade de continuer jusqu'à Rome.
Oui, et là, il y a la légende qui dit que parce qu'il y avait une apparition de Saint-Pierre, voire Saint-Pierre et Saint-Paul qui le menaçaient, et c'est pour ça qu'il a abandonné tout à fait sa campagne, mais alors, sans doute, il y avait d'autres raisons. Voilà.
D'autres raisons qui seraient en fait un trésor, enfin un butin, une rançon, quoi, une des plus grandes rançons de l'histoire.
Oui. Là, il y avait quand même sans doute pas mal de destruction et de violence aussi. Mais là encore, la légende noire d'Attila se développe beaucoup plus tardivement, sans doute à cause de l'influence aussi des raids des Hongrois qu'on a assimilés en quelque sorte aux Huns. C'est parce que les Hongrois qui sont installés dans le territoire actuel de la Hongrie à la fin du 9e siècle. Au 10e siècle, on fait pas mal de raids vers l'ouest et notamment vers l'Italie. Et à cause de la consonance aussi de Huni et Hungary, bon, on les a assimilés un peu.
On va revenir à la Hongrie. Oui. Peut-être juste avant, pour revenir à l'historicité, qu'est-ce qui fait que Attila se replie et renonce à Rome? Est-ce que c'est le butin? Est-ce que c'est la menace, en fait, de l'alliance avec l'Empire d'Orient qui se ressoude et d'une attaque dans son dos? Est-ce que c'est l'épidémie? Est-ce que c'est le fait qu'il se sente vulnérable face à Aetius, qu'il a battu quand même dans les champs cataloniques? Qu'est-ce que vous en pensez, Jaroslav Lebedinsky?
Son armée est malade. Son territoire...
Malade de quoi? De la peste?
Une pestilence quelconque, comme on disait au Moyen-Âge. Elle n'était probablement pas très adaptée au climat local. Son territoire est pris à revers par les forces romaines orientales. En tout cas, c'est ce qu'on déduit de certaines sources. On n'en a pas une certitude absolue, mais c'est fort possible. Puisque désormais, les deux moitiés de l'Empire romain coopèrent contre Attila, qui est considéré comme une nuisance majeure. Il est probablement acheté par cette ambassade conduite par le pape.
Il y a la menace d'Aetius.
Il y a la menace d'Aetius et il y a aussi le fait que son entourage cherche à l'en dissuader. Un certain nombre de généraux uniques, disons, considèrent probablement que c'est la campagne de trop et qu'il est temps de se replier.
Donc il se replie, il retourne donc vers la... Disons quoi, la zone, la plaine de Pannonie, grosso modo la Hongrie actuelle, Hongrie-Roumanie actuelle. Bon, là, il se marie. Est-ce qu'on a une idée de... C'est un deuxième, un troisième ou un vingtième, un trentième mariage? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Ah, je vois que Katalin Escher a une idée sur la question. Je vous pose évidemment la question des noces avec Ildiko, probablement une germaine, et qui est quand même un épisode majeur de la vie d'Attila, puisqu'il y meurt.
Certes. Ce qu'on voit très clairement, c'est que les Huns, les Rouens, pratiquent une polygamie qu'on va appeler diplomatique, c'est-à-dire qu'ils utilisent les liens matrimoniaux pour sceller des paix avec d'autres peuples, ou alors on sait qu'Attila aussi a épousé la fille d'un de ses généraux, donc c'est il y a l'affaire d'Honoria qu'on peut ajouter à la liste. Oui. On connaît nommément la première dame d'Attila, qui s'appelle Erekan ou quelque chose qui s'y ressemble.
Et la mère de l'héritier principal, d'ailleurs.
Voilà, et qui apparaît comme quelqu'un d'influent à sa cour, qui a un palais avec une suite féminine, elle a quelqu'un pour s'occuper de ses affaires. Donc, en fait, on voit bien que c'est un personnage très important, ce qui n'empêche pas Attila de se remarier assez régulièrement. Et croisé avec cette image assez austère et un peu hautain qu'on a de lui, toute la partie, on va dire, sentimentale est sans doute un peu à exclure. Bon, maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que pendant ce dernier mariage, il meurt la nuit de ses noces. C'est ce que disent les sources.
Alors, il meurt d'un saignement de nez, une hémorragie. Alors, est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce qu'il a été empoisonné? Donc, est-ce que c'est une overdose d'alcool? Alcool, est-ce que c'est un excès de débauche? Qu'est-ce que vous en pensez, Dina Bozoki?
Je ne peux pas savoir, mais on pense aussi que ça peut être aussi lié à une tuberculose. Enfin, j'ai lu ça, mais aucune certitude. Il pouvait être empoisonné aussi. Mais...
Rappelons quand même que l'empereur de Constantinople a cherché à l'empoisonner quelques années auparavant, a essayé de corrompre un de ses principaux alliés pour le tuer.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Yaroslav?
Et que l'empereur qui règne au moment de la mort d'Attila a un rêve la nuit de sa mort, un rêve où il voit l'arc des Huns brisé. Alors, connaissait-il la date à l'avance ou a-t-on inventé toute l'histoire? On ne le sait pas.
Donc, Attila meurt et là, stupeur, je me tourne vers vous, Dina Bozoki. En fait, la postérité de cet empire est quasi nulle. Cet immense empire se disloque en quoi, 2-3 ans? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette puissance géopolitique majeure de l'époque, enfin, qui dessine toute la carte de l'Europe, on peut dire, s'effondre comme ça si vite? Tout naît sur un seul homme?
Oui, parce que d'abord, il y avait plusieurs héritiers, plusieurs fils. D'autre part, surtout, c'était pas un empire unique, avec H et sans H, mais c'était constitué de beaucoup d'autres peuples et soumis ou alliés et qui étaient tout de suite en rivalité. Donc, tout de suite, il y avait des batailles entre les vrais et les autres. Et aussi, ensuite, il y avait une dispersion, une désintégration assez rapidement. Mais peut-être vous pouvez en dire un peu plus encore comment les uns sont partis plutôt vers l'Est. Et
oui, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces uns? Donc, ils sont vaincus. Enfin, en tout cas, leur coalition est vaincue. Les Alains, les Gépides, que sais-je, enfin, les différents peuples, soit germaniques, soit nomadiques.
Oui, non, c'est ce qui est disloque, tout à fait ce qui
mais
vient.
Mais que devient le peuple
décrit. En fait, les fils d'Attila, enfin, les principaux rivaux pour le trône, ont eu l'idée imbécile de tirer au sort les peuples vassaux, qui se sont immédiatement rebellés à une bataille livrée sur le fleuve Nédao, qu'on ne sait d'ailleurs pas localiser, en 454 ou 455. Les uns sont vaincus, et le principal héritier d'Attila est tué. Et ensuite, petit à petit, les tribus uniques, dont on entend encore parler pendant quelques dizaines d'années, disparaissent et se fondent tout simplement dans de nouveaux groupes nomades. Des uns restent sur place, certaines tribus se replient vers l'Est, d'autres nomades arrivent de l'Est au même moment, et au 6e siècle encore, au 7e siècle, nous avons des peuples considérés comme d'ascendance unique ou appartenant très largement à la famille unique dans les steppes européennes.
Et donc vous en touchiez un mot, Dina Bozocchi. Attila n'est pas du tout aimé en Italie, sa mémoire non plus en France. Par contre, en Hongrie, votre terre natale, et d'ailleurs vous-même aussi, Katalin Escher, il est considéré comme un héros, si je comprends bien.
Oui, tout à fait.
Il est considéré comme l'ancêtre tutélaire. Pourquoi est-ce que c'est un héros en Hongrie?
Il y a plusieurs raisons, parce que tous les peuples cherchent toujours leurs origines, et pour les peuples occidentaux, c'est les Troyens qui sont donc les ancêtres de leur peuple. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de littérature là-dessus. Et pour les Hongrois, il y avait plusieurs raisons. Effectivement, déjà, les Occidentaux les ont assimilés au un à cause de la consonance, donc, déjà, de leur nom, mais aussi à cause de leur mode de fonctionnement, des raids, de l'arc, les chevaux, etc. Et aussi, surtout, parce que, à l'époque d'Attila, sans doute, le centre du pouvoir se trouvait dans le territoire de l'actuelle Hongrie. On ne sait pas où c'était son centre du pouvoir exactement, on cherche toujours, mais c'était quand même dans le bassin des Carpates.
Alors, il y a une autre chose qu'on cherche toujours, et là, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Donc, Attila est enterré dans un triple cercueil d'or, d'argent et d'acier. Les esclaves qui l'enterrent sont tous égorgés pour cacher son tombeau, mais je suis sûr que vous savez où il est. Il est où, ce tombeau, Katalin Escher?
Alors, il n'y a pas de triple cercueil, mais ils ont bien été égorgés, oui. Il a été enterré à un endroit tenu secret, dans de la terre, donc. Et c'est vrai que cette légende de son tombeau extrêmement riche a tenu en haleine des générations, aussi bien de chercheurs que d'hommes littéraires. Peut-être qu'on l'a déjà trouvé. Parce qu'effectivement, au XIXe siècle, il y a eu une énorme découverte d'or d'époque unique, côté de Séguette. Peut-être pas, du coup. Aussi, à quoi on le reconnaîtrait, Attila, dans son tombeau, en fait, on ne sait pas. Et en tout cas, où qu'il soit, sa légende et sa mémoire demeure assez vivante.
Alors justement, pour honorer sa légende noire, il est temps de terminer cette émission avec Verdi. Les Italiens n'ont donc pas gardé un très bon souvenir d'Attila, mais Maria Callas, qui interprète l'air de Liberamente or Piangi en 1972, ça fait donc aussi partie de la légende. Liberamente or Piangi, merci Edina Bozocchi, merci Jaroslav Lebedensky, merci Katalin Escher d'avoir été avec moi pour évoquer le terrible destin d'Attila le Hun.
C'était le troisième épisode de notre enquête « Les envahisseurs », une série d'Alfred de Montesquieu préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine, avec à la technique aujourd'hui Jean-Benoît Tétu. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'appli de Radio France.